Merci beaucoup, Daniel. Je voudrais vous inviter à lire deux passages dans l'Ecclésiaste, chapitre 2, pardon, versets 18 à 23. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé. Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil. Tous ses jours ne sont que douleur, et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. Et un peu plus loin, une deuxième lecture, toujours dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 4, versets 4 à 8. J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité, la poursuite du vent. L'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils, ni frère, et pourtant, son travail n'a point de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille, et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Prions. Faire encore devant ce texte, que nous pourrions dire poétique, tu vas encore nous parler. Tu vas encore nous dire ton message. Tu vas encore nous dire ta parole. Seigneur, nous avons besoin d'être enseignés par toi, par ton esprit. Remplis ce lieu de ton esprit. Et quand tu reviennes encore une fois, revienne toute la gloire, Seigneur. Fais taire vraiment les bruits du dehors pour que nous soyons concentrés sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Quoi de plus intéressant que de partager quelques réflexions sur le travail, alors que moi, je ne suis plus au travail, c'est au repos. Enfin, quoique parfois, quand on est pensionné, on a encore beaucoup plus de travail. Et je vous propose de parler de trois points, le travail, le repos et Dieu, qu'est-ce qu'il en pense, quoi. Le travail, cette citation, le travail n'est pas fait pour l'homme, la preuve, ça le fatigue. C'est clair. On ne travaillerait pas, on ne serait pas fatigué. Et l'autre chanson, le travail, c'est la santé, et rien faire, c'est la conserver. L'Ecclésiaste non plus n'est pas mal dans son genre. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Oh, haï. Quelle triste constatation. D'autant que si on se fie au début du texte, au début du livre qu'il a écrit lui-même, il est roi de Jérusalem. Son travail, c'est de gouverner. Il s'interroge aussi sur sa succession. Celui qui va le suivre sera-t-il sage ou insensé? Il va jouir de ce qu'il a fait, et sans pour autant en avoir payé le prix. Il considère un peu son successeur comme, on dirait, un parvenu. Et ça le déprime. Verset 20 du chapitre 2, « J'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. » Il est roi de Jérusalem, je vous le rappelle. Les constatations de l'Ecclésiaste dans le texte que nous avons lu concernant le travail sont bien sombres. C'est triste. Le travail entraîne préoccupation, fatigue, douleur, chagrin, jalousie, envie. Bref, une vanité, une poursuite du vent. J'ai l'impression qu'il avait une machine à remonter le temps et qu'il vivait à notre époque. Les gens se plaignent de leur travail. Du travail trop dur, on cherche un travail allégé, le travail astreignant, des heures trop nombreuses, des heures supplémentaires, on en fait trop, on n'est pas bien payé. Et télétravail, là, autre chose, encore un nouveau travail. Et d'un autre côté, on se plaint du manque du travail. Il n'y a pas assez pour tout le monde. Il y a plein de chômeurs. Qui c'est qui va payer nos pensions? Bon, il n'y a plus de travail pour tout le monde. Que faire? Que penser? Mais aujourd'hui, on n'a pas le choix. Il faut travailler. Et à deux, c'est quand même parfois plus facile pour payer tous ces crédits, tous ces frais, tout ça. C'est un minimum. Il faut travailler à deux. Alors parfois, on sait bien que les familles, qu'on appelle monoparentales, rament un peu et demandent de l'aide au gouvernement. Mais que penser? Que penser encore du travail? Le travail qui a amené une nouvelle maladie, le burn-out. Ma grand-mère n'a jamais parlé de burn-out. Elle était fatiguée, mais elle continuait. Le mal du siècle, en croissance depuis 1990, le burn-out était un épuisement professionnel lié généralement au stress au travail. Il faut toujours en faire plus. Il faut être considéré. Toujours plus. Il faut supporter. Il faut supporter les autres. Il faut supporter pour garder sa place. Sinon, on est dehors. Et puis, c'est la suite de la chanson, les prisonniers du boulot ne font pas de vieux hommes. L'Ecclésiaste constate juste. Il parle même d'une jalousie entre collègues. Hein, Daniel, hein? Quand c'est à l'usine, la jalousie entre collègues. Celui-là, c'est le chouchou. C'est le chouchou du patron. Il ne lui donne que le meilleur. Et c'est là, il gagne plus que moi. Foutu les salaires. Il y a qu'une discussion. Mais là où il met le doigt sur une vanité, c'est au chapitre 4, 8. Chapitre 4, verset 8. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni frère, ni fils, et pourtant son travail n'a point de fin. Pour qui donc travaille-t-il? Il se donne la peine sans suite. Il travaille et il n'a rien. Il n'y a pas de suite. Et chez les Juifs, vous savez que la descendance avait une importance. Et aujourd'hui, malheureusement, rares sont ceux, et je suis le premier, qui reprennent l'entreprise familiale. Heureusement, mon frère a repris. Mais les entreprises familiales, ben, généralement, ben, quelquefois, elles sont fermées ou revendues, tombe à l'eau, et puis parfois, on empoche l'héritage, et puis, basta. Le travail, hélas, n'est quand même qu'une des conséquences du péché. Genèse 3, 19, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. » Faut pas vouloir à Adam, hein. On aurait été à sa place, on aurait fait pareil. Au-delà de toutes ces constatations, l'Ecclésiaste donnera quand même un conseil sage, sous forme de proverbe. Verset 6 au chapitre 4. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. Une main pleine avec repos que deux avec travail excessif et burn-out. Une main pleine avec le repos. Le repos. Le thème du repos est classique aussi dans la Bible. Dieu se repose de ses œuvres. Dans Genèse, le sabbat est un jour de repos. En Exode, la terre promise devait se reposer 7 ans. En Lévitique. Il y a un autre sens théologique qui est aussi le plus fréquent. Il y a le repos après la vie. Le repos céleste, le repos éternel. Ce n'est pas de celui-là qu'on va parler aujourd'hui. Dans Deutéronome, Dieu promet à Israël qu'il connaîtra le repos dans le pays de Canaan. Et dans le passage que Daniel a lu ce matin, le psaume 122, il parle que les bienheureux seront dans le repos. Une prophétie annoncera que les exilés de Babylone reviendront dans le repos. Salomon sera appelé homme de repos. Toute la Bible parle du repos. Il faut se reposer. Vous savez comme moi que le peuple d'Israël, hélas, n'a pas trouvé ce repos. Et je voudrais vous lire le psaume 95, versets 8 à 11. Il n'a pas trouvé le repos à cause de son incrédulité, de sa désobéissance. Psaume 95, verset 8. N'endurcissez pas vos cœurs comme à Meriba, comme lors de la journée de Massa dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve, bien qu'ils m'aient vu agir. Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût, et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'égare. Ils ne connaissent pas mes voies. Ainsi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. ils n'entreront pas dans mon repos. Heureusement, la nouvelle alliance nous a introduite par la venue de Jésus qui nous ouvre les portes d'une nouvelle dimension du repos. Jésus conseillera à ses disciples de prendre du repos dans Marc. Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Jésus parle du repos. Et avec le repos du cœur, Jésus accorde aussi le repos à l'âme, à qui il faut mettre en pratique. Matthieu 11, 28, 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Non seulement le repos physique, mais aussi le repos de l'âme, le repos dans la tête, le repos des jambes et le repos dans la tête. Souvenez-vous, après la résurrection, Jésus est apparu sur le bord de la mer de Galilée et les disciples étaient épuisés. Ils avaient travaillé toute la nuit, ils avaient essayé de prendre du poisson, mais rien n'y a fait. Jésus les envoie rejeter le filet et puis après ça, qu'ils ont fait une pêche miraculeuse, Jésus leur fait un petit repas. Un petit feu. Je ne dirais, moi, j'appelle ça. Il a fait un petit barbecue. Repos. Après le labeur, Jésus n'est pas contre de se reposer. Mais reprenons l'adage de l'Ecclésiaste. Mieux vaut une main pleine avec repos que les mains pleines avec travail et poursuite du vent. Les disciples étaient éreintés. Ils avaient essayé de travailler toute la nuit pour gagner leur pain à la sueur de leur front, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais ils n'ont rien récolté, mais quand Jésus intervient, et qu'on l'écoute évidemment, imaginez que les disciples disent « Oh, on a travaillé toute la nuit, non, on ne va pas rejeter les filets. » Non, ils écoutent ce que Jésus dit, et les filets sont à craquer. Ils vont être remplis, et il y aura encore du surplus, il y en aura encore en plus. « Faites tout ce qu'il vous dira, » dira Marie à Cana. Par contre, lui-même, notre Seigneur Jésus, n'avait pas lieu ou reposer la tête. Lui, il pensait plus aux autres qu'à lui. Quel Seigneur merveilleux nous avons. Si vous voulez la référence, Jésus n'avait pas au lieu où reposer sa tête, c'est dans Luc 9, 58. Quelque chose d'extraordinaire. Notre Seigneur nous donne de repos alors que lui n'en prend pas. Et j'arrive à un troisième point, et Dieu dans tout cela. Dieu, qu'est-ce qu'il en pense de ce travail, de ce repos? Nous avons déjà cité que dans la Genèse, le premier livre de la Bible, Dieu voit que ce qu'il a créé était bon. Et au chapitre 2, il s'accorde une journée de repos. Ah, j'ai fini. J'ai fait la création. Je me repose de mes œuvres. Mais il ne pourra pas le faire longtemps, parce que l'homme à qui il a donné souffle de vie va le trahir, va désobéir. Et alors qu'il est dans le paradis, l'homme peut jouir de tout, sans se fatiguer. Il n'a qu'à cultiver, donner des noms aux animaux. Non, il désobéit, il pêche. Les conséquences, on l'a déjà dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. La vie belle est finie. Ce ne sera plus un long fleuve tranquille. Ce ne sera plus un Éden, ce ne sera plus un paradis, un bouleversement profond qui ne sera rétabli que dans les deux derniers chapitres de la Bible. Il faudra écrire tous ces passages avant d'être restauré. Et Dieu, entre ces deux-là, n'aura de cesse d'aimer l'homme et de le rechercher pour le sauver. Le psalmiste a bien compris que Dieu n'a plus de repos. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Psaume 121, verset 4. Voici, il ne dort ni ne sommeille. Notre Dieu ne dort pas. Il est en permanence en éveil. Il fait des nuits blanches à cause de nous. Il n'est pas homme, comme le décrit l'Ecclésiaste, mais son cœur saigne jour et nuit de voir ce monde dans son état de désobéissance. Il ne dort pas. Le grand Dieu éternel est sans arrêt, avec les yeux ouverts sur nous. Et on l'a dit tout à l'heure, son ange, l'ange de l'Éternel, campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Moi, j'ai appelé ça le Samu divin. Il est là en permanence. Je me demande parfois si je suis conscient de ça. Est-ce que je suis conscient que mon Dieu est toujours là, à côté de moi? Il n'y a même pas le temps qu'il arrive, il est là. Et pour ce qui est de Jésus, qui est Dieu, bien sûr, durant ces 3 années de ministère, nous pouvons constater que Jésus travaille sans relâche, ça a déjà été dit, pour libérer, pour guérir, pour sauver, mais il était aussi homme. Et nous le voyons fatigué du voyage avec la femme samaritaine. Il s'assied. Il est fatigué du voyage. Ailleurs, nous le retrouvons endormi dans la barque. Vous vous souvenez, hein? Il dort, lui, paisible, et la barque qui se secoue. Il était bien épuisé. Mais il reste le Dieu des miracles. Aussitôt qu'il voit que le manque de foi des disciples est là, il fait taire les flots en furie. Si notre barque est secouée par les orages de la vie, notre maître est toujours dans le même bateau. Même s'il dort, il veille. S'il dort physiquement, il veille. Notre bateau, notre vie sur les flots du temps, c'est notre monde actuel, secoué partout. Mais notre Seigneur est là. Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit n'aura pas de repos tant qu'il y aura des yeux qui ne voient pas et des oreilles qui n'entendent pas. Tant qu'il y aura des vies à sauver et des cœurs à libérer, il ne dormira pas. Et certainement que tant que moi je serai sur la terre, il ne dormira pas. Merci mon Dieu. Et dans cette grande moisson, Dieu nous veut à l'œuvre. Nous sommes ses ambassadeurs, je vous le répète. Et en conclusion, pour le travail, on est loin d'avoir fait tout le tour. Hein. Nous sommes loin d'avoir fait le tour de ce que dit la Bible. L'Ecclésiaste décrit seulement une peine. Mais voilà ce qu'il nous dit aussi au verset 24 du chapitre 2. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Tout vient de Dieu. Dans le jardin d'Éden, la Genèse nous dit que c'est Dieu qui fit pousser les arbres et les plantes, mais c'est l'homme qui devait les cultiver. C'est Dieu qui donne, mais il faut entretenir. Quel merveilleux Dieu nous avons. Il bénit, et l'homme, parfois, ne s'en rend même pas compte. Les arbres poussent, on ne s'en rend pas compte. Même si le travail est dur, Dieu est là et il bénit. Trouver du bien-être au milieu du travail est aussi un don de Dieu. Mais c'est aussi un don de Dieu de trouver le repos. Ésaïe 30, 15, voilà ce qu'il nous a dit, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Généralement, on s'arrête à ce verset-là, verset 15, « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » On le prend pour soi. Mais le verset continue, « Mais vous ne l'avez pas voulu. » Il s'adresse au peuple d'Israël. « Vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui nous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul. Et à la menace de 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. » Et costaud, notre Dieu. L'Éternel désire vous faire grâce. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux ceux qui espèrent en lui. Heureux ceux qui espèrent en lui. Les 2 premiers chapitres de la Bible nous décrivent un Dieu créateur. Et les 2 derniers, un Dieu victorieux. Victorieux qui n'a pas dormi, d'accord. Il a travaillé pour nous. Il nous a aimés et il crée de nouveaux cieux. Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux. Et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Dieu nous veut avec lui. Et entre le début et la fin de la Bible, il n'a pas arrêté de nous chercher pour faire de nous son peuple. Il en a même perdu le sommeil. Et si on nous rend compte que nos petits soucis ne sont rien à côté de ce que le Seigneur a déployé comme travail, sans repos, pour nous accorder son repos éternel avec lui, dans le ciel. Amen. Seigneur, nous te bénissons parce que tu ne dors, tu ne sommeilles. Nous éreintons parfois à travailler et à faire beaucoup de choses qui sont apparemment poursuite du vent. Et parfois, on se dit, à la fin de notre vie, on dit, oh, j'aurais pas dû. Mais Seigneur, nous te remercions parce que toi, tu es là et tu veux que nous soyons avec toi. Seigneur, aide-nous à quand même trouver du repos sur cette terre, mais surtout, trouver le repos de notre âme pour ta gloire et pour être de grands ambassadeurs pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à chanter ce chant, Quel repos céleste.
Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos. Quel céleste repos, quel repos céleste, mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. Tous mes jamais je